C'est bon? On y va? Alors, une petite intro comme d'habitude. Ah, vous êtes prêts, les gars, là, dans les starting blocks, c'est beau à voir. Bon, alors. Bienvenue dans TV Buddies, le podcast petit écran en quadruplex de Koh Samui, de Paris, de Marseille et de Biarritz. Je suis votre hôte, Lord Brett Weber, et mes playboys internationaux sont...
Laurent Vachaud, ah oh, oui, le soir j'écris guerre et paix, quelle est belle ma vallée, des choses comme ça.
Jeff Domenech, mais vous... on va le refaire. Jeff Domenech. Mais vous pouvez m'appeler Majesté.
Mais vous pouvez m'appeler ça, Majesté.
Ah, on va la refaire, alors.
Ouais.
Romain, pense à couper ça. À chaque fois, tu le mets. Hein, t'es dégueulasse.
Jeff Domenech. C'est pas Romain, c'est moi qui mets à chaque fois.
C'est toi, le salopard. Dis, Romain,
allez, concentre-toi. Fais comme si t'étais avec des pros, vas-y.
Jeff Domenech. Mais vous pouvez m'appeler Sa Majesté.
Et oui, aujourd'hui, bon. Tout...
Mais bah alors, moi, rien.
Ah, pardon, j'ai oublié assez de femmes. Ah, putain. Pardon. Alors, Philippe, excuse-moi, le plus important pour toi.
Déjà, j'ai la phrase la plus pourrie.
Oh non.
Oh bah oui.
Oh bah alors.
Ah, Philippe, bah, c'est bon. Bah non. Attends. Philippe, c'est bon, le juge Fulton français.
Ça valait le coup.
Ah bah, on dirait pas vous voir, hein, quand même.
Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Amicalement Vôtre, sans jamais oser le demander. Mais avant tout, un rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec des invités prestigieux et plein de surprises et chaque semaine, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, Philippe nous pitch la série et l'épisode du jour, comme si nous étions un gros producteur de télé belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
Alors la série, c'est simple, ça raconte l'histoire du juge Fulton, qui est un juge anglais à la retraite, sur une chaise roulante, et puis après il n'est plus sur une chaise roulante, mais on ne sait pas trop pourquoi, et qui monte une escouade de justiciers composée de deux personnes qui sont deux milliardaires, un américain et un anglais, qui n'ont aucun passé militaire, aucune spécificité d'action, ni rien. Mais bon, en tout cas, ils montent une espèce de bande pour lutter contre le crime de manière générale, ce qui semble parfaitement justifié et normal.
Un justifié dans la ville.
Voilà.
Mais...
Mais c'est un concept complètement con, quoi, parce que quand tu réfléchis bien, les mecs, comment ils, quand on voit le premier épisode, ils n'ont rien de spécialement...
Mais non,
tu te dis qu'ils sont à même de pouvoir résoudre des enquêtes et tout ça, c'est juste de branleurs qui foutent rien, tu vois, et qui ont plein de thunes, et qui ne savent pas quoi faire pour s'occuper, un peu comme Thomas Crown dans l'affaire Thomas Crown.
Oui, mais lui, en fait, quand on réfléchit, avant que Jeff nous raconte la genèse avec toi, vous allez le faire en duo, un peu comme Sinclair et Wilde, mais quand tu réfléchis, c'est un peu comme si tu avais deux Bruce Wayne qui ne s'étaient jamais entraînés aux arts martiaux.
Un peu, ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont simplement deux abrutis, un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, comme on va le voir, et l'autre qui est un enfant de la balle, qui est street smart, mais ils sont bons à rien. Vraiment, c'était une idée incroyablement foireuse de la part de Fulton.
Ils sont tous les deux assommés au moins une fois par épisode. Ils ne servent à rien.
Avec la clé de 20, tu sais, donc.
Ouais.
Ce que disait Philippe, là, tout à l'heure, pour le juge Fulton, en fait, il se met en fauteuil roulant pour les apitoyer au début, pour qu'ils acceptent.
Ah, c'est dingue. Mais donc, alors, la genèse, commençons par le commencement, comme d'habitude. Au départ, Laurent, il y a donc une... C'est un petit peu la fin des séries d'espionnage. C'est une des dernières, ça, là, des... Ça avait commencé avec Danger Man, je crois, au début des années 60. Et c'est la gloire de ITV. C'est les belles années de cette télévision anglaise qui nous donnera également des choses comme Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Tandis qu'en France, nous avons L'Homme du Picardie.
Mais là, en fait, c'est moi qui fais la genèse.
Oui, avec Jeff, vous
Moi, j'ai préparé, mais vas-y, Laurent, commence.
L'origine de cette série, hein, c'est la droite continuation de la série Le Sein, hein, qui était déjà une série avec Roger Moore, que tout le monde connaît, hein, le personnage des romans de Leslie Charteris, il s'appelait. Et donc, c'était un type qui s'appelait Lou Grade, qui a voulu, après, faire une autre série avec Roger Moore. Et il pensait qu'il fallait, parce qu'il voulait conquérir le marché américain, qu'il fallait mettre Roger Moore en tandem avec un acteur américain. Donc, ils ont commencé à envisager un casting. Alors, ils avaient des rôles, ils avaient des personnages assez curieux. C'est-à-dire qu'ils avaient pensé à Rock Hudson. J'imagine Rock Hudson doublé par Michel Roux. Ça n'aurait pas été triste. Et ils trouvaient, c'est Roger Moore qui a trouvé que Rock Hudson était trop dans son style. Tu vois quoi, donc il disait qu'il fallait un mec qui était plus différent, et ils sont arrivés assez vite à Tony Curtis, et ils se sont rencontrés à Los Angeles, Tony Curtis et Roger Moore. Et il paraît qu'on avait dit à Roger Moore, faut surtout pas fumer parce que l'autre il est complètement genre, tu sais, les Californiens branchés santé et tout ça. Mais simplement, ils se sont rendus compte qu'il fumait énormément d'herbe. Tu vois, ça a été un problème après quand il est arrivé en Angleterre. Parce que je crois que le jour où il est arrivé à Heathrow, Tony Curtis il a été retenu pendant 24 heures en garde à vue parce qu'ils avaient trouvé plein de cam dans sa valise. Tu vois.
Ah ouais, non, c'était Midnight Express avec Tony
il
Curtis.
Il fumait, Wild. Il fumait sans arrêt. Donc en fait, bon, le doublage de Michel Roux ne reflète peut-être pas ça, mais son côté, il paraît qu'il est explosé en fait pendant tous les épisodes, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement sous.
Ça rappelle, c'est l'époque aussi. Ça rappelle David Carradine qui a pas fait un seul Kwai Chang Kang Kung Fu net non plus. Mais avant que tu nous racontes un peu plus la genèse, Jeff, je voudrais qu'on remonte un peu aux origines et que tu nous parles un peu, parce que toi, tu es un petit peu plus jeune que nous de quelques mois, Jeff, de quelques heures. Donc, est-ce que tu as vu Le Sein à la télévision, toi, ou pas?
Oui. Alors, en fait, comme disait Laurent, en fait, avant Lou Grade, il y avait le producteur qui s'appelait Robert Baker, okay, qui était ami de Roger Moore. Et en 69, donc c'était la sixième saison, ils ont tout arrêté. Et lui, dans sa tête, il envisage déjà un nouveau concept, une nouvelle série. Et il utilise Le Sein, justement, pour amorcer cette nouvelle série. Et dans le dernier épisode du Sein, il lui met un acolyte. Et les bases sont là. Et donc, Simon Templar, il fait équipe avec un millionnaire texan qui avait fait fortune dans le pétrole. Alors, il s'appelle pas Danny Wilde dans l'épisode. Il s'appelle Rod Houston, qui est joué par un comédien qui s'appelait Stuart Damon. Et dans cet épisode, il y a déjà leur rivalité qui va se transformer en complicité. Et en dépit de leur culture et leur personnalité différente. Et il a beaucoup de retours positifs. Et donc, Baker, il a énormément d'ambition. Et c'est là qu'il va avoir un grand patron de chaîne télé, Lou Grade, comme a dit Laurent tout à l'heure. Et c'est un mec, je me suis renseigné sur sa carrière. Il est assez éclectique. Donc, il a produit des séries comme Le Prisonnier. Mais il a produit Bergman, Sonate d'automne, Bon baiser d'Athènes, Dark Crystal et Masque avec Cher. Et le gars, il avait déjà vendu Le Sein dans 60 pays. Donc, il savait y faire. Et son argument, en fait, c'est que les duos marchaient bien en série. Il y avait des agents très spéciaux, le mystère de l'Ouest, les espions. Et Grade est convaincu. Et donc, il lui donne une simple poignée de main à Baker. Il dit, vas-y, fais ce que tu as à faire, sans rien signer. Et Baker va développer la série. Il fait appel au scénariste de Chapeau melon et bottes de cuir, Denis Spooner, qui fera une V1. Et puis, il va passer la main à un autre scénariste qui s'appelait Brian Clemens, qui va retravailler la trame. Et surtout le personnage de Danny Wilde, parce qu'en fait, au départ, c'était un Texan, un playboy texan assez bas du front. Et c'est lui qui a l'idée d'amener le juge Fulton. Et de son côté, Lou Grade lui contacte les chaînes télé américaines en vendant la télé sur le nom de Roger Moore, qui était quand même une vedette à l'époque grâce au Sein. Et Moore, qui déclinait tous les projets télé suite au Sein, parce qu'il en avait marre, évidemment, et il a décliné amicalement votre départ, parce que ça faisait 6 ans qu'il faisait ça, et surtout, il était déjà pressenti en 71 pour remplacer Sean Connery sur Les Diamants sont éternels.
Ouais.
Et Grade, il va voir Roger Moore, ça c'est Roger Moore qui l'explique dans une interview que j'ai vue, il va voir Roger Moore, et il fait appel à son patriotisme. Il imagine, on va vendre la série dans le monde entier, ça va faire entrer des devises en Angleterre. Pense à nous, pense à la reine. De la reine, tu vois, rien à vous. Et en fait, il va finir par accepter. Roger Moore, mais plus parce que Sean Connery va rempiler pour James Bond. Et surtout, il a un divorce très onéreux à payer. Voilà. Ouais. Et donc, sa seule condition pour faire la série, c'est de faire une seule saison. Parce qu'il ne voulait pas être enchaîné comme Le Sein. Et comme a dit Laurent, il y avait Rock Hudson et aussi Glenn Ford qui avait été envisagé. Mais Glenn Ford ne voulait pas quitter les États-Unis et il venait signer pour une série qui s'appelait Sam Cade. Mais comme il a dit, ça aurait été beaucoup moins fun d'avoir Rock Hudson ou Glenn Ford dans la série à la place de Tony Curtis.
Attends, avant que tu poursuives, je voudrais faire une petite tangente rapide. Il paraît que Glenn Ford était un incroyable connard. C'est vrai, non?
Moi, je l'ai lu dans des biographies d'acteurs, surtout Ernest Borgnine, qui disait de mal de personne, sauf de lui. Il disait que c'était le pire, quoi.
Moi,
Il voulait même pas en parler.
j'ai des potes qui sont allés chez lui à Los Angeles. C'est des chasseurs d'autographes.
Ouais.
Il était pas bien en point. Et leur fils, et c'était le fils de Glenn Ford qui l'ouvre. Il me dit, on arrive, on voit les Oscars, tout ça. Et le fils dit, un jour, je rentre de l'école à l'improviste. Et il y avait Marilyn qui se baignait à poil dans la piscine. T'imagines?
Ah ouais. Remarque,
Pas
ça nous
mal,
est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé, ça c'est dit. Hein,
Marilyn
ouais,
Monroe?
à
Non.
part toi. Bon.
Pour terminer avec ça, donc il va voir les producteurs et il leur demande, enfin la chaîne, quel comédien il voudrait. Et dans la liste, donc, il y a Tony Curtis. Et la chance, c'est que Tony Curtis, qui lui aussi refusait les TD, sa carrière était en train de flancher. Okay. Et il le rencontre à Beverly Hills. Curtis est emballé par le concept. Il donne son accord de principe. Et le titre au départ s'appelait The Friendly Persuaders. Et ils l'ont changé parce qu'il y avait un film qui s'appelait Friendly Persuasion avec Gary Cooper. Et donc, c'est resté The Persuaders. Et c'est au Festival de Monte-Carlo en février 70 que Baker annonce la vente de la première saison à ABC pour 3 250 000 dollars. Le tournage se termine en juin 71 et la diffusion se fait en septembre et en France un an plus tard, le 3 octobre 72 sur la 2.
Laurent, il en est où Tony Curtis dans sa carrière à ce moment-là?
Oh bon, il en est nulle part. Il fait des films genre avec Bronson et Michel Mercier. Tu sais comment ça s'appelait ce truc-là?
Les
Les
baroudeurs.
baroudeurs.
Les
Les baroudeurs,
baroudeurs,
ce genre de
ouais. J'ai
film,
une
voilà.
anecdote sur ce tournage. Il y a Bronson qui était un vrai connard. Désolé Philippe.
Comme Glenn
Michel,
Ford,
elle
par
était avec Tony
exemple.
Curtis. Curtis était adorable. Très adorable. Et elle était assise, Michel Mercier. Curtis lui amène quelque chose à boire, tu vois, sur un plateau. Et elle se
Oh,
lève, elle va aux toilettes.
Michel.
Et comment il s'appelle? Et Bronson lui pique sa place. C'est-à-dire, il pose les pieds sur la chaise de Michel Mercier.
C'est bien.
Et quand elle revient, elle arrache la chaise. Elle me dit, j'étais à 2 doigts de lui mettre une gifle dans la gueule, tout Bronson qu'il était.
Tu l'as mérité, tu parles, ouais. Mais Philippe, donc on a un peu le même problème qu'avec Steve McQueen et Paul Newman dans La Tour Infernale. Personne ne doit avoir le top billing. Ils doivent être effectivement côte à côte au générique, parce que même si Tony Curtis est un peu sur la redescente et que Roger Moore est un acteur quand même très télévision, eh ben ce sont des stars à l'époque et on a cet extraordinaire, on va parler un petit peu de De Palma, cet extraordinaire split screen et ce générique légendaire avec cette musique de John Barry qui fait carrément, c'est aussi important que la musique d'Ennio Morricone dans les films de
Ah
Sergio
ouais.
Leone. Mais Laurent, le premier split screen, c'est quand? C'est Dionysus en 69 ou c'est L'étrangleur
Le
de Boston,
premier.
justement,
Oh,
avec
tu veux dire
Tony
le film
Curtis?
fait en split screen, le film entièrement fait en split, le film fait en split screen ou alors
Pas
la
entièrement fait en split screen,
réalisation
mais
des.
peut-être une des premières fois où on a vu cette technique au cinéma, d'une certaine manière. Tu
Il me
saurais
semble que
le.
c'est pas l'affaire Thomas Crown, non?
Dans
Ah,
Ocean
peut-être.
Eleven, non? Avec Sinatra? Peut-être, non?
Ah, c'est
Ah, ça, j'ai pas vu.
possible. Philippe, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je dirais que c'est Thomas Crown, mais
Ouais.
et
En tout
Boston,
cas,
c'est
c'est
juste avant
l'étrangleur de.
l'étrangleur de Boston.
L'étrangleur de Boston, c'est après, non, Thomas
Oui, c'est
Crown.
après Thomas Crown. Ouais.
C'est ça,
Après, il y
voilà.
avait des séries télé qui les utilisaient pour les génériques, les Manix, les machins comme ça, c'était déjà du split screen, non? Mais
Ouais, Mission Impossible, d'ailleurs.
voilà, mais
Ou.
dans un film, j'avais toujours entendu. Alors, c'est peut-être, par exemple, De Palma, il avait fait ce film-là qui s'appelait Dionysus in 69, qui était entièrement fait en split screen, là.
C'est ça
Mais
dont je
c'est
parlais.
après 69, tu vois, donc c'est
Ouais.
68-69, ouais.
Mais comme a dit Jean tout à l'heure, la carrière de Curtis était en train de flancher. D'ailleurs, après Amicalement Vôtre, mis à part le dernier nabab de Kazan, il n'a rien fait. Enfin, il a fait un film avec Jean Lefebvre et Gérard Jugnot, là, 13 femmes pour Casanova. Le cinéma s'était terminé. Là où Roger Moore, sa carrière, il ne faisait rien au cinéma. Et après Amicalement Vôtre, évidemment, il a enchaîné avec son rôle de James Bond. Donc, en fait, ça a été la fin de la carrière de Curtis au cinéma et le début de celle de Roger Moore.
Curtis, il avait quand même très mauvaise réputation à cause de la drogue. Hein. C'est-à-dire qu'il prenait beaucoup de drogue et il était un peu blacklisté. Et puis il y avait ses films qui n'avaient pas marché, mais il était considéré comme un type un peu drogué quand même.
Incroyable.
Pour revenir au générique que tout le
Ouais.
monde connaît et qui est un classique, je trouve qu'il y a un truc que j'ai vu 3 épisodes moi pour le show pour me remettre dans le bain, parce que j'avoue que j'avais complètement oublié la série. Et ce que je trouve incroyable avec ce générique, c'est qu'il est tellement fort, il est tellement marquant, je trouve qu'après on a du mal à se remettre dans la série. C'est-à-dire que
Ouais.
c'est extrêmement décevant après ce qu'on voit. Tu vois ce que je veux
Tu
dire?
t'attends à des trucs plus excitants. Mais en même
Voilà.
temps, ça marchait à l'époque. Aujourd'hui, quand tu revois ça, ça a horriblement vieilli sur tous les plans. Mais moi, je me souviens, j'étais très excité quand j'étais gamin que je regardais ce truc-là. Alors que si tu regardes les intrigues, enfin, c'est quand même n'importe quoi. Tu sens qu'ils font durer pendant, je sais pas combien ça dure chaque épisode, mais un argument qui normalement devrait même pas durer 10 minutes, tu vois, quoi.
Et
Donc
c'est très
c'est
fauché, en plus c'est extrêmement fauché, ça repose uniquement sur le charme des
fauché.
acteurs.
Tu sens qu'ils
Et
s'en
mal
foutent, que
éclairé.
personne n'y
Ben,
croit.
le Fauché, l'Osé, ils l'ont mis sur le salaire des acteurs surtout, hein, parce
C'est
que c'est
ça. Mais
coûté très cher la série.
Jeff,
Il y a un
ouais.
petit truc que personne ne sait. On voit toutes ces photos quand ils sont gamins, etc. Et la photo de Roger Moore gamin, c'est pas lui.
Ouais,
C'est
son
la
fils.
toute première, c'est
Ouais.
son fils.
Son
Parce
fils.
qu'il n'avait pas de photo qui lui convenait, donc il
Et
a mis la photo de son fils.
qui a eu l'idée de ce générique? Parce que on sait même pas, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus célèbre. C'est quasiment un des plus beaux génériques de série
Le
télé, mais.
producteur, je pense, il doit avoir une histoire derrière ce générique, qui est un des plus beaux, effectivement, de l'histoire de la télévision.
Ouais, mais
Et
j'ai jamais rien lu sur la création de ce générique, parce que souvent les génériques sont créés bien après.
moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est un mec qui a émis sur Twitter qu'à chaque fois qu'on a besoin, tu sais, dans les films, il y a toujours un cliché où tu vois des photos de l'acteur qui joue dans le film, enfant, tu sais, dans un cadre, etc. Et il y a un mec sur Twitter qui a dit, c'est le moment où la production est obligée d'appeler la maman de l'acteur pour lui demander des photos de
Mais c'est
l'acteur quand il
ça.
était enfant. Et elle était
Non,
incroyablement
mais
fière, tout d'un coup, tu
il
sais.
y a des trucs assez marrants dans ce générique, si tu veux. C'est que tu as donc les photos de Curtis, je crois, sont authentiques. Hein, c'est vraiment des photos
Ouais.
de lui jeune,
Il est beau, d'ailleurs.
alors que
Ouais.
Moore, il y a vraiment des photos de lui dans d'autres films et des photos de son fils, comme Jeff l'a dit. Mais
Ouais.
alors, vous vous souvenez qu'il y a des extraits de. Tu vois des gosses, enfin, c'est censé être Danny Wilde jeune dans le générique. Tu vois en noir et blanc des photos où tu le vois censé être courir dans une rue du Bronx, tu vois, ou des espèces de petits flashs comme ça. Et en
Ouais.
fait, c'est des extraits d'un épisode d'Amicalement Vôtre, hein, qui s'appelle, je crois, Un ami d'enfance, qui raconte quand Curtis
Oui,
recroise
c'est
un
vrai.
pote à lui qui était avec lui dans le Bronx et tout ça. Et alors, les flashbacks que tu vois des deux gosses censés être dans la rue du Bronx, en fait, c'est tourné dans les décors de la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, tu vois, qui se tournait en même temps qu'Amicalement Vôtre. Et en
Ah
fait, c'est pas du tout une rue de New York, donc c'est une rue de l'Angleterre victorienne. Donc, t'imagines quand même comment le Bronx est censé. L'Angleterre victorienne représente une rue du Bronx dans les années 40, quoi, tu vois, c'est quand même dans les années 30, c'est un peu débile, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as donc John Barry qui a créé ce thème inoubliable, hein, avec des synthétiseurs Moog. Il avait des clavecins, des synthétiseurs Moog. Mais alors, c'est pas lui qui avait le reste de la musique, hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'on entend une autre, voilà, toutes les musiques en dehors du thème principal, c'est un mec qui s'appelle Ken Thorne qui a. Et elles sont pas mal d'ailleurs, hein, je veux
Elles
dire, il y
sont
a des.
excellentes, toutes ces musiques interstitielles sont formidables. Je m'en rappelais encore. Elles ont vraiment un groove et donnent du.
Ta-ta-ra-ram, ta-ta-ra-ram, ta-ta-ra-ram.
Très, très
Ce que
groovy.
disait, tu sais ce que disait Laurent tout à l'heure, quand il est arrivé à la douane, Curtis?
Ouais.
Il le place dans le superbe épisode que Jean nous a fait regarder, Element of Risk. Au début du film, je sais pas si tu vois, il y a cette dame à qui il prend la valise, tout ça, etc.
Ouais.
Et il lui dit, tiens, je vous inviterai bien sur le restaurant si bien sûr les douaniers ne vous retiennent pas. En fait, il improvisait énormément Tony Curtis. Et en fait, le stagiaire a raconté l'anecdote. C'est un stagiaire qui allait chercher Curtis. Et ce producteur, Baker, connaissant Tony Curtis et son goût pour la marijuana, l'avait appelé à Los Angeles et dit, surtout, viens sans rien, je te fournirai ce qu'il te faut sur place. OK? Et évidemment, non seulement il avait de la marijuana, mais il avait aussi un flingue dans la valise.
Ah ouais, d'accord.
Et avant de passer la douane, donc le stagiaire, il va le chercher dans l'avion. Et il lui serre la main et il lui file des cachets d'amphétamine qu'il avait dans sa poche, parce qu'il voit que ça va mal se passer.
Ouais.
Et comme il a dit Laurent, il s'est fait embarquer par le juge, etc. Et en fait, il a dit qu'il buvait beaucoup, qu'il buvait plus. Mais comme il était stressé de changer de pays, il avait besoin de marijuana. Et donc, ils ont juste payé 50 livres pour le libérer. Et le juge a été cool.
Il paraît qu'il était incroyablement désagréable avec tout le monde, Tony Curtis. C'est-à-dire
Ah oui, putain.
qu'il s'est assez mal entendu avec Roger Moore. À l'arrivée, c'est un peu comme Steve McQueen et Yul Brynner. Il y a quand même une espèce de respect mutuel et ils se sont rendus compte qu'ensemble, il y avait une vraie alchimie, comme dans Les Sept Mercenaires, si tu veux. Mais ils s'entendent pas du tout. Ils n'ont pas du tout la même technique de travail sur le plateau. Jeff, tu
Ah ouais,
trépignes?
je
Qu'est-ce que
confirme.
toi?
Il y a des interviews des techniciens et des réals de l'époque.
Ouais.
Ils disaient là où Roger Moore Le matin, il arrivait, il disait bonjour à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, etc. Curtis, il arrivait en faisant la gueule. Il se mettait dans sa caravane, il se fumait un pet, ça allait un peu mieux. Mais il était surtout, il aimait bien écraser les gens. Pour lui, c'était dénigrant de faire la télé. C'est la première fois qu'il en faisait. Il a vraiment fait la série
Incroyable.
que pour le que pour l'oseille, il l'a dit, hein. Et surtout, il remettait tout en cause. C'est-à-dire, le scénario demandait de passer par la porte. Il fait, ben non, je vais passer par la fenêtre. Donc, il échangeait tous les axes de plan, etc. Juste pour s'imposer. Et il y a, y a un jeu, y a un réal qui explique, il y a une scène. Curtis n'aimait, contrairement à Robert Conrad, dont on a parlé l'autre jour, Curtis n'aimait pas les cascadeurs. Il disait, vous faites un métier de merde, ce que vous faites, je peux le faire. Et il y a un épisode où il doit monter à une gouttière et monter tout en haut d'une usine. Et comme le plan devait être fait d'assez loin, j'avais juste l'amorce de Curtis montant le début de la gouttière. Après, c'était un cascadeur. Et à un moment donné, le réal, alors le réal qui est vieux aujourd'hui, hein, témoigne, il dit, je le vois plus, Tony Curtis. Et je le vois s'approcher de la gouttière. Et je le vois qui commence. Et là, je dis au chef, vas-y, mets la caméra, enclenche. Et il le filme. Et il monte, et il fait toute la cascade. Et en fait, il a fait ça, persuadé de ne pas être filmé, pour pouvoir faire virer le réalisateur en disant, comment ça, je fais la cascade, tu ne me filmes pas? Et
Incroyable.
malheureusement pour Tony Curtis, il l'a fait, il a bien fait la cascade. Et le dernier jour de tournage, c'était une tradition pour que les acteurs offrent quelque chose à leur assistant, etc. Là où Roger Moore offrait des Rolex, des voyages, etc., l'assistant de Tony Curtis explique, il me fait venir dans sa loge, c'est le dernier jour, me dit, il était à poil. Il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, putain, c'est sympa. Et il me dit, il y avait un vieux carton dans un coin, il sort une bouteille de vin blanc, il me la dédicace, il fait, tiens, c'est pour toi. Je dis, bon, ben, c'est sympa, il m'a acheté une bouteille de vin blanc. Et 3 jours plus tard, j'ai reçu une facture d'un carton de bouteille de vin blanc acheté par Tony Curtis aux frais de la production.
Ouais, d'accord. Alors, ce qui est rigolo, dans une anecdote de l'arrivée de Tony Curtis aussi à Londres, c'est que Roger Moore était censé normalement l'accueillir, était censé venir le voir, et il se trouve qu'il était retenu encore pour un calcul rénal. Je rappelle que ce que Laurent Bouzereau nous avait raconté,
Ouais, sur le sur qui même
quand il venait sur le
Moonraker,
set de Moonraker, l'autre n'était pas là parce qu'il avait déjà des calculs rénaux.
ouais.
Du calcul rénal dans la carrière de Roger Moore.
Et une autre anecdote, il y avait un parce qu'il changeait souvent de réalisateur sur la série. Il y avait un jeune réal qui voulait bien faire les choses. Il avait fait des tableaux aimantés avec dessiné chaque scène. Il avait deux petites marionnettes aimantées qui plaçait, tu sais, des figurines qui plaçaient comme ça. Et Roger Moore arrive. Il lui dit, voilà, donc le premier plan, ça va être ça. Et sur chaque case, il y avait deux petites marionnettes comme ça, aimantées. Et Roger Moore, ouais. Curtis, il arrive en retard. Il va bien, Tony, je t'explique. Et là, Curtis, il prend le tableau, il fout tout par terre. Il fait, je suis un comédien, je ne suis pas une marionnette. Donc, boum, il met l'ambiance, tu vois.
Ah ouais, la
Mais
tête de
vraiment, ils gardent
con.
tous un très mauvais souvenir dans le. Tous les techniciens
Et en
de
même temps, c'est vrai
Curtis.
qu'il amène un charme, il amène quand même un charisme au personnage où on se demande qu'est-ce que c'est que cet étrange Ludion? Parce il fait très vieux quand même, t'as vu, il a 45 ans à l'époque. Roger en a 43. Roger, t'as vu, il a pris quoi, 15 kilos pendant la série, pendant un
À
an,
cause du
là, en buvant du
champagne,
vrai
ouais.
champagne, c'est ça, voilà. Il y en a un qui fumait des joints, l'autre qui buvait du champagne. Donc ça devait être quelque chose quand même sur ce plateau de la
Oui,
Riviera.
il y a un truc qui
C'est
m'a
un peu,
surpris.
attends, Philippe. Philippe, avant, c'est un peu la Riviera sans retour, on pourrait dire, quoi.
C'est
Oui.
ça. C'est ça.
À toi.
Non, je voulais dire qu'en revoyant la série, donc que j'avais pas mal oublié, je pensais après le générique et après tout ça qu'il allait y avoir un contraste absolument énorme entre les deux. Tu sais, le mec du Bronx, le voyou du Bronx, et en fait, pas tant que ça. Ils sont tous les deux sur le même registre. Ils jouent tous les deux un peu fripon comme ça, un peu, tu vois, un peu
Tu l'as vu en
précieux, tous les
V, tu
deux.
l'as vu en VF ou tu l'as vu en VO?
J'en ai vu un en VF et un autre en VO.
C'est pas tout à fait
Bon,
pareil dans la VO. Mais on va parler de Jeff
d'abord,
qui va nous parler
on m'a beaucoup
du
dit, on m'a
doublage.
beaucoup dit que l'apport de Michel Roux était colossal. Oui, il a rajouté des trucs, mais la voix de Curtis, quoique plus grave, est un peu pareille. C'est-à-dire, il joue aussi les boudouilles, ah bah dites donc, et tout ça, il le fait aussi en anglais, hein.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que si on respectait le postulat de départ, qui est d'avoir un tough guy, un type qui arrive, qui est un peu un badass de la rue de New York,
C'est ce que je te
élevé
dis, ouais.
comme ça, face à une espèce de lord Fauntleroy, tu vois, qui sait se battre, t'aurais deux couleurs. Mais là, effectivement, t'as deux clowns, quoi. T'as une
C'est
espèce.
ça.
Il n'y a pas d'Auguste, il n'y a pas de clown blanc. C'est deux beaux mecs qui sont en même temps deux connards, qui sont physiques, mais pas vraiment. C'est très curieux
Probablement
comme ça.
homosexuel, quoi, tu
Un
vois.
problème. Oui, c'est vraiment.
En tout cas, le personnage de Curtis, il fait penser à ça quand même. Il a des maniérismes absolument
Ah
incroyables, tu
bah
vois.
dingue.
Et
Non mais t'as
au
l'impression
départ,
qu'il a
tu parles. Ouais. Vas-y, vas-y, bon.
T'as l'impression que c'est la cage aux folles. Moi, j'ai un épisode, je me souviens, ils prennent leur déjeuner tous les deux ensemble, leur petit déjeuner. T'as l'impression que c'est la biscotte dans la cage aux folles. mais tu prends des rognons le matin. Oh là là, mais ton Altesse, comment tu peux faire? Comment tu peux manger? Mais Daniel, je te prie que tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment la cage aux folles, quoi.
Et au départ, le personnage de Danny Wilde était aussi habillé en costume trois pièces. Et ils se retrouvent sur le plateau. En fait, ils sont habillés de la même façon.
En plus,
non, ça va pas être possible.
Non, mais je me souviens.
En fait, c'est lui qui va s'habiller, qui va trouver cette histoire de gants.
Les gants. Ouais.
Il va changer de fringue, de blouson entre chaque scène. C'est lui qui sera. Et là, Roger Moore, c'est lui qui a. Si tu le vois au générique de fin, c'est Roger Moore qui a designé ses propres costumes.
Ouais.
Non, c'est pour ça qu'à la fin, il y a marqué costume by Roger Moore.
Il paraît que les gants de Curtis, c'est pas la première fois qu'il les porte. Hein, dans les Baroudeurs, il avait des gants. Et je l'ai revu, moi, après, il présentait une émission sur les acteurs d'Hollywood, etc. Tu le voyais accoudé à une grosse caméra, il présentait les gens, et il avait encore des gants. Donc,
ouais.
C'est un truc qu'il affectionne, apparemment.
Et c'est pas un truc
comme
de
Michael Jackson.
C'est pas un truc de toxico, ouais, les gants, pour cacher pas, des marques.
Jackson,
sur
c'est
les
pour
mains,
pas laisser de traces sur le majeur.
Je me souviens d'un épisode aussi où t'as Roger Moore qui enfile un qui essaye une espèce de robe d'hermine, tu sais, comme les empereurs ou les rois, tu sais. Et t'as le juge Fulton qui rentre et t'as Danny qui est en train de l'aider à mettre le truc et lui dit mais qu'est-ce que vous faites, et l'autre il lui prend le bras et il fait nous allons nous marier. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est ça dans le texte anglais aussi, ou est-ce que
oui,
les
oui.
délirait et comme la VO la VF de Scarface improvisait. Quoi.
Curtis, il improvisait beaucoup. Et dans une série où ils sont en bagnole, c'est Brett Sinclair qui conduit. Et il dit, ouais, je conduis. Il fait, parce que la dernière fois qu'on devait aller à Madrid, on s'est retrouvé à Berlin. Et là, Tony Curtis lui dit, Nobody is perfect.
Ah oui, voilà,
forcément, un clin d'œil à certains M. Show.
Mais c'est vrai que, bon, Philippe, à cause de Mission Impossible, le film, enfin, la série est un échec en Amérique, parce que même si Roger Moore se préparait à faire James Bond, il aurait bien fait une deuxième saison avec Tony Curtis, mais ça marche pas, ça passe sous le radar en Amérique, c'est un énorme succès, en revanche, en Europe, et en particulier en Allemagne, où ça s'appelle Die Zwei, les deux. Et là, il y a deux types qui sont un peu les Michel Roux et enfin locaux, tu vois, je veux dire, qui kidnappent, qui volent carrément le script et qui font des impros, qui brisent le quatrième mur. Au moment où Roger Moore est signé pour James Bond, ils font des références à 007, tu vois, etc. Donc, c'est carrément le Muppet Show, tu vois, je veux dire, en servant de Sinclair et de Wilde comme des marionnettes.
Ouais, on n'a jamais parlé du titre original de Persuaders, qui est ridicule comme titre, c'est-à-dire les persuasifs.
Ouais. C'est bizarre.
Les persuasifs.
Con,
ouais,
comme titre.
Le titre français était excellent, quoi.
Ouais, c'est vrai. Pour une fois.
Mais les persuadeurs, je n'ai jamais vraiment entendu ça en anglais, des gens parler de persuaders pour dire des dragueurs ou des mecs. Tu vois, j'ai jamais vraiment entendu cette expression. Donc, soit c'est complètement désuet aujourd'hui. Je sais pas qui a eu l'idée.
Surtout,
de cette...
c'est un drôle de postulat, parce qu'il y a eu effectivement dans les années 60 des personnages de Playboy légendaires comme Porfirio, Ruby Rosa, ou tu sais, ces personnages qui arrivaient et qui draguaient des héritières de Colgate, ou je sais pas quoi. On voit ça dans le film avec Michael Caine et Steve Martin, ouais, qui est très drôle, Dirty Rotten Scoundrel. Donc ça a pas été beaucoup montré. Ça devrait être une série en streaming, je trouve. Mais c'est un drôle de postulat de départ d'en faire des détectives. C'est comme si tu prenais par exemple Elvis et toute sa mafia de garde du corps de Memphis, et que s'il les faisait avoir des enquêtes aussi tout d'un coup.
Non, mais c'est délirant. C'est que t'imagines un juge qui recruterait Xavier Niel et le prince Harry pour faire des enquêtes, pour suivre des putes sur la Riviera et tout. Mais comment ils ont pu accepter un truc pareil?
Curtis, il était pas con de faire une deuxième saison, mais comme il n'y avait plus Roger Moore, la prod a voulu chercher un autre acteur, mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui avait le même charisme.
Ils avaient pensé à un mec qui s'appelle Noël Harrison, qui est le fils de Rex Harrison,
oui,
et qui,
ça pas
qui chante la chanson Windmills of Your Mind, tu sais, dans le générique de l'affaire Thomas Crown. Ils avaient pensé à lui pour Brett Sinclair, et il paraît que le producteur a dit non, non, on ne remplace pas Roger Moore, finalement, on ne fait pas. Quoi.
Dans les années 90, ils avaient un projet de faire The New Persuaders. Curtis devait jouer le rôle du juge Fulton.
Wow.
Et c'est leurs deux fils qui allaient jouer les rôles. Et je voulais poser une question. Qui vous auriez vu, vous, sur une adaptation au cinéma? Moi,
Pour
j'avais
être
pensé à Jude Law pour
Jude Law,
Fred
ouais.
Sinclair
Mais,
et
non, mais c'est
Clooney à
pas.
l'époque, hein. Clooney et Jude Law, j'aurais
Non,
trouvé,
mais je
moi.
crois que ça a été envisagé à un moment. Hein. Quand ils faisaient la mode des séries
Ouais.
bah, au bord du Fugitif, de Mission Impossible, là, dans les années 90, il y avait eu un projet, et je ne pense pas du tout que ça a été sérieux, mais j'avais entendu parler de George Clooney et de Jude Law,
Ah
effectivement,
ouais?
pour les deux
Ça,
rôles,
je
tu
sais
vois.
pas.
Mais alors,
Non,
où vous allez vous
effectivement,
marrer, c'est que.
j'ai des infos là-dessus parce que
Attends.
ils ont essayé de le développer, mais c'était Ben Stiller qui voulait le faire au départ et il voulait le
Ouais.
faire avec Steve Coogan. Et
Oui, c'est
après, il
ça
voulait
aussi.
avoir Hugh Grant et George Clooney, ce qui aurait été pas mal non plus
C'est
aussi.
bien
Et
ça.
moi, j'ai
Ça, c'est
travaillé
bien.
à un moment pour une maison de production dont je tairai le nom pour protéger les innocents
Les films du plat pays.
sur une adaptation française
Ah
d'Amicalement
oui.
Vôtre
Ah oui, mais
pour
moi, je
Paul
l'ai.
Vord et Édouard Baird.
Alors,
Brièvement.
Edouard
Attends.
Béret?
Et Paul Vord. C'est une drôle
Absolument. Non, non,
d'idée.
mais.
Ouais.
Moi, j'ai entendu parler, c'était pour M6 dans les années 2000.
Je
Il y
crois que
avait
c'était ça.
Edouard Baird, effectivement, qui était considéré pour Lord
Sinclair?
Sinclair. Et il
Ouais.
y avait un autre mec qui s'appelait, je ne sais plus comment, pour Danny Wilde. Mais enfin, ils ont essayé d'en faire une adaptation française. C'est comme il y avait eu Absolutely
C'est ça.
Fabulous, je crois, à un moment fait en
Ben, j'ai
français. Donc...
bossé brièvement dessus avec André Bonzel, qui est un des trois larrons qui a fait C'est arrivé près de chez vous. Donc, heureusement, ça n'a jamais vu le jour.
Et tu parlais d'oseille, ça coûtait vraiment l'argent. C'était, je crois, 2 500 000 $ la saison. Ça
Ouais.
a coûté.
Tu comprends pas
Roger
bien.
Moore avait pris 1 million de livres sterling et Curtis on n'a jamais su, mais il a pris
Mais je
énormément
pense que
d'argent.
c'est peut-être là, tu sais, il tournait en un moment sur la Côte d'Azur, donc peut-être que c'est ça qui a fait monter le budget à un moment, parce que c'est je vois pas très bien, à part les salaires des acteurs, ce qui pouvait coûter cher là-dedans, quoi, tu
Les
vois.
hôtels, les locations, tu vois,
Oui,
les
mais c'est
décors.
à cause de
Ouais.
la délocalisation à un moment. Sinon, quand c'était tourné à Londres, c'est toujours les mêmes décors de merde où tu vois des trucs
Ouais.
avec du papier peint
Avec la moquette sur
rouge,
les
tu vois.
murs, là.
C'est toujours. Mais alors, il tournait normalement même les scènes sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire dès que tu as un intérieur dans Amicalement Vôtre, c'est toujours tourné en Angleterre. Donc, quand tu connais un peu l'architecture française, tu les vois rentrer dans des hôtels français ou monégasques, et tu vois l'intérieur, c'est toujours la même déco de merde que tu vois avec les
Ben
murs
c'était ouais,
verts, tu vois.
au studio Pinewood, il
C'est
leur avait
ça, ouais.
installé des saunas et des jacuzzis dans les deux loges
Pinewood, hein, parce que Pinewood, ça veut dire la pine en bois, quoi.
Pinewood. Ben moi, je suis très français. Hein. Pinewood, j'ai dit. Je savais qu'on me
Pinewood.
reprendrait.
On dirait un juron, tu sais, de pirate. Pin de bois. Mais mais
Il y
c'est marrant.
a. Ouais, vas-y, vas-y, Laurent.
Non, non, je disais, Jeff, on a commencé aujourd'hui une tradition parce que la dernière fois, je t'avais fustigé d'avoir choisi un épisode des Mystères de l'Ouest qui n'était pas terrible en te disant, bon, c'est moi qui choisis le prochain et j'en ai choisi un encore pire que le tien.
Ah
Donc,
oui, là bravo. Là bravo, fallait le trouver celui-là.
pour le prochain, Philippe, tu vas nous choisir l'homme qui valait 3 milliards pourri.
Ouais.
Chacun à chaque
L'homme du
fois.
Picardie, c'est mieux, ouais.
Ce qui est génial là, c'est que quand même, le truc, c'est le grand blond avec une chaussure noire ou frantique, enfin le mec qui prend
Ouais.
la mauvaise valise à l'aéroport, mais
Hitchcock.
ils t'en font 50 minutes là-dessus. C'est-à-dire que normalement, ça
Ouais.
devrait s'arrêter au bout de 10 minutes, tu vois, quand
Ouais.
tu sais pas pourquoi Curtis continue à faire durer le quiproquo aussi longtemps, tu vois, de dire ah bah oui, je suis là, Max, ah bah non, bah ah, non, 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 oui. Et là,
Le
quand ils prennent
scénar
son. Tu sais, il y a
est
la scène où ils prennent son
épouvantable.
passeport et ils disent, mais vous êtes Danny Wilde? Et il dit, ah bah oui, j'allais pas utiliser l'Omax. Hein. Tu sens
Non, ce
le
qui est drôle
machin
en
où
plus, c'est que
on tire le quiproquo, tu sais. Mais...
cette fin sur le tarmac de l'aéroport, avec le camion citerne, on se croit
Ah
dans Mad
oui.
Max 2, tu sais, il saute sur le camion.
Ah ouais, la cascade d'enfer. Tu te dis,
En plus,
l'autre,
Philippe, t'as
il
vu, en général, quand tu joues deux personnages dans une série, ça arrive
va.
souvent, ça c'est un cliché de la série télé et du cinéma, mais là, il les joue exactement pareil, t'as vu, il n'y a pas
Oui,
beaucoup
c'est
de
ça.
différence entre
C'est ça.
Lomax et Wilde.
Oh putain,
Moi,
cette
je
scène
pense que
serait.
pour Wild, pour que ça marche, il fallait une brute, tu vois, enfin un Jason Statham ou un truc comme
Bah
ça,
voilà,
avec un
exactement.
lord à côté de lui. Mais
Exactement.
pas deux précieux, ah bah oui, et tout ça, tu vois, c'est pas possible, ça
Ah,
marche
sauf
pas.
si les queues crypto gay, quoi, tu vois.
Et dans
La
la
scène
boîte de
serait.
nuit, là, dans
Ah
la
ouais,
boîte
la
de nuit,
scène
le
serait.
Trocadéro,
Le
on dirait
Trocadéro.
dans Eyes Wide Shut, tu sais, avec sa
Ah
capuche, là.
oui. Ah oui, France. Le
Ah bah, vous
déguisement est
voyez, je suis un
formidable.
espion et vous voyez le monsieur
Exactement.
là-bas est un espion aussi.
Fidelio.
L'espèce de blonde complètement con. Tu sais.
Ça
On
m'a fait
dirait
penser
presque.
un peu à quelques idées du clan des Siciliens. Tu sais, cet avion, il faut piquer des trucs dedans. L'autre pilote qui est alcoolique, donc il peut pas piloter
Ouais, c'est
l'avion.
vrai, c'est
Il y
vrai.
a, y a
Ouais.
quelques. Mmh.
Mais on dirait presque une parodie, en fait. C'est quasiment de la parodie, tu vois.
C'est vrai que sur les scénarios, ils se
Surtout,
cassaient pas trop la
t'as
tête.
jamais
Hein.
l'impression qu'ils sont en danger, t'as jamais l'impression que ça qu'il va y avoir des morts. En fait,
Rien, non.
entre la comédie, le pastiche, la
Non, mais
BD,
aujourd'hui,
enfin.
c'est à peine regardable pour des gens qui n'ont pas la nostalgie comme nous. Enfin, t'imagines des jeunes qui voient ça aujourd'hui sans
Oui.
savoir ce que c'est. Ils tiennent pas 10 minutes. Ils se disent, c'est quoi ces conneries, tu vois? Mais nous, on regarde ça. Moi, je me souviens quand même, ça marchait vachement bien sur moi à l'époque. J'avais quoi, une dizaine d'années? J'aurais raté ça pour rien au monde, tu vois? Donc, c'est quand même aussi, ça a quand même 53 ans comme série, tu vois, quoi. Donc, c'est. Mais il y avait ce mélange d'ironie, enfin, de ce côté parodique un petit peu, de pastiche, là. C'était pas si courant que ça, en fait, à l'époque, dans les séries, tu vois. Donc, il y avait un côté comédie. On regardait ça pour rigoler, en fait, amicalement. Tu regardais pas ça tellement
D'ailleurs, Tony
pour le
Curtis,
sérieux
c'est quand même
des
un
épisodes.
Tony Curtis, c'est quand même un grand Auguste. Il a une vis comica, une puissance comique extraordinaire. Et c'est vrai que Roger Moore se retrouve dans le rôle du clown blanc et que Curtis, il fait des trucs insensés quand même, parce que il fait jamais peur. T'as vu, il est censé être un caïd de la pègre, alors que il est tout le temps ridicule. Et en même temps, il a un côté harlequin, il a un côté presque Jean-Paul. C'est un
Ouais, un peu.
funambule, quoi.
Il y a cette scène autour de la table, là, où il y a les mecs assis
Ouais.
autour de la table. On dirait Jean-Paul dans L'Incorrigible.
Voilà, c'est
Ouais.
ça.
Et là, avec ce truc, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et
Mais
Curtis, il raconte une.
Bébel,
Ouais.
il avait souvent des gants aussi, non, des fois, Bébel, je trouve, dans les
Ouais, et
films.
des cuirs.
Ouais, dans
Ouais.
certains films, il avait assez des gants de chevreau. Et alors, il n'y avait pas beaucoup de guests parce qu'il n'y avait qu'une seule saison. Il y avait Terry Thomas qui avait joué, cet Anglais qui avait joué
La Grande
dans La Grande
Vadrouille.
Vadrouille. Et il y avait une jeune première, Joan Collins, qui avait fait. Et Curtis, il a une scène avec elle. Et alors, l'anecdote est très drôle. Et ça se passe dans une fourgonnette. Et Curtis devait attendre le feu vert de l'assistant pour démarrer, pour descendre vers la caméra. Et il me dit, il explique dans l'interview, je vois John Collins hyper stressé, etc. Il fait, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il fait, vous êtes sûr? Et puis, elle prend son petit miroir, elle se regarde, etc. Il fait, oui, vous êtes super, vous inquiétez pas. Mais ma coiffure, ça va, vous êtes sûr? Oui, allez-y. Enfin, non, ça va pas. Il fait, vous voulez que j'appelle le coiffeur? Oui. Donc, Curtis baisse la vitre. Coiffeur, coiffeur. Donc, coiffeur qui remonte, qui la recoiffe, tout ça, etc. C'est bon, ça va mieux? Oui, c'est OK, maintenant je suis prête. J'ai le trac, hein. Le maquillage, ça va? Il fait, oui, ça va, c'est parfait, vous êtes sûr? Non, ça va pas, putain. Curtis, il rebaisse la vitre. Maquilleur! Voilà, maquilleur qui remonte. Et ça commence un peu à le gonfler, Curtis, mais il dit rien, tu vois, il est au cool, c'est une comédienne, il va pas gueuler. Et Curtis devait faire le geste à l'assistant pour démarrer la scène. Et là, elle lui dit, attendez, j'ai besoin de me concentrer. Il fait, bon, OK, alors concentrez-vous. Ok, pas de souci. C'est bon, je suis prête, cool. Et là, d'un coup, elle fait, non, je suis pas prête. Et là, il se met à hurler. Arrêtez de jouer les connasses et commençons à tourner. Et là, la fille, elle est tétanisée. Elle baisse la vitre. Elle dit, vous m'avez traité de quoi? C'est bon, rien. Elle fait, là, elle ouvre la vitre. Elle fait, il m'a traité de connasse. J'arrête de tourner.
Je me souviens avoir eu des images de la première à Londres de Love Story de Arthur Hiller, tu vois, et tu vois Tony Curtis qui fait partie des invités de la première, et il est quasiment habillé avec les gants, tu sais, t'as l'impression qu'il sort du plateau
Il sort du
d'avitaillement.
tournage.
Ah oui, ah bah là, bah, je vais avoir le film, hein, quoi. C'est surréaliste, t'as l'impression que le mec, il est quasiment sorti du plateau, quoi, tu vois.
Ah, c'est extraordinaire,
Jean,
mais
je voulais te poser une
ouais.
question, Jean. Quand Michel
Oui,
Roux a
oui.
remplacé Claude Brasseur au théâtre, tu
Oui.
l'as rencontré,
Moi, je l'ai vu comme ça,
la
moi.
voix, ça t'a pas fait percuter?
Bah si, c'était quand même un truc légendaire, quoi, tout d'un coup, de
Et moi,
rencontrer
je
ce
l'ai vu,
personnage.
j'ai vu le
Ouais.
dîner de cons avec Michel Roux, moi,
Oh,
au
ouais.
théâtre.
Et t'as pas l'impression d'avoir Tony Curtis sur
Ah
scène?
si, total, ça marchait pas du tout. Enfin, je trouvais que c'était, enfin, pour les gens qui avaient vu Amicalement Vôtre, c'était très, très dérangeant parce que tu n'arrêtais pas d'imaginer Tony Curtis en robe de chambre avec son tour de rein, tu sais, en train
On voit que
de
c'est un peu le dîner de con si tu
dire.
regardes. T'as Danny Wilde, c'est Villeray, et Brett Sinclair, c'est
Non,
l'ermite.
mais tu verrais bien Brett Sinclair avec le tour de rein, tu sais, et puis l'autre qui arrive.
Mais t'as vu, Roger Moore, il est quand même habillé comme Austin Powers, j'avais oublié quand même, t'as vu,
Ah
avec sa
ouais.
chemise à jabot et quand il
Oui, mais
danse.
c'était la
Ah,
mode.
non, ça...
Parce que tu regardes Polanski il y a des photos de Polanski à la première londonienne de Rosemary's Baby, mais il est exactement comme ça avec le truc en dentelle à jabot. Tu sais, ça devait être un machin dans le Swinging London.
Non, ouais, Tarantino, il le montre comme ça dans L'été d'une fois à Hollywood.
Il y a un côté Prince aussi chez Tony Curtis, on avait vu ça aussi chez James West, Robert Conrad. Ouais. Ils sont tous les deux habillés un petit peu comme c'est des rockstars, quoi, en fait. Et t'as vu, il est avec des jumelles. Il y a un côté un peu Shining aussi qui est bizarre. Et attends, parlons un petit peu de Fulton, parce que Fulton, c'est un étrange mélange de M, de James Bond et de Benny Hill. T'as vu, il a un côté un peu pervers quand même, t'as vu?
C'est marrant, c'est un acteur anglais qui a fait une grande carrière à Hollywood, où il jouait toujours les savants, tu sais, il était dans des films genre Quand la marabunta gronde, ou
Ah ouais, avec les
La
fourmis,
vallée de Guanji, tu sais, que des trucs d'aventure comme ça, où il jouait les explorateurs et les choses comme ça.
Moi, j'ai vu, en fait, j'ai connu Tony Curtis avec cette série, moi. C'est-à-dire que j'étais trop jeune à l'époque, j'avais jamais vu certains Lame Show encore, tu vois, ou tous les films qu'il avait pu faire avant. Donc, ça faisait partie, en fait, ces séries-là, des choses que tu voyais, où tu voyais les comédiens pour la première fois. Même Roger Moore, moi, j'avais même pas vu le sein à l'époque, tu vois. Donc, Tony Curtis, moi, quand je parlais plus tard avec des Anglais, je me souviens quand j'allais dans les séjours linguistiques, tu vois, dans les familles anglaises, je parlais de Persuaders, enfin, et eux, ils connaissaient pas. Tu vois, enfin, c'était une série, tu sentais qu'il n'y avait pas du tout marché tellement en Angleterre, et ils connaissaient Tony Curtis pour plein d'autres trucs, mais cette série-là n'était pas du tout connue en Angleterre. Et alors, les États-Unis, on en parle encore moins, alors que moi, j'étais persuadé que c'était une des séries les plus populaires dans le monde
Ouais,
entier, parce
pareil,
que ça avait une telle
pareil.
popularité en France.
Laurent, toi qui maîtrises le sujet, Kubrick et Curtis, ça s'était passé comment?
Très, très bien.
Pour Spartacus, ouais.
Très, très bien, ouais. Parce qu'ils étaient tous les deux des Juifs du
Du
Bronx, en fait,
Bronx,
tu vois.
ouais.
Et moi j'avais même interviewé une fois la femme de Kubrick qui racontait en fait que Tony Curtis c'était un des acteurs avec qui il s'était le mieux entendu et que des fois bah, ça je pense qu'il quand il tournait Amicalement Vôtre il est sûrement allé lui rendre visite parce qu'il paraît qu'ils avaient gardé le contact tu vois ça paraît un peu curieux qu'ils aient pas
Ils se
ça paraît
ressemblent un
curieux
peu,
d'ailleurs
quand tu vois les photos d'eux sur le plateau de Spartacus, ils se ressemblent un petit peu, tous les deux, ces deux types qui ont du charme, tu vois, ils ont un côté un peu hustler, magicien, t'as vu, ils font des tours de cartes sur le plateau, et ils ont effectivement connecté énormément tous les deux. Je me suis demandé d'ailleurs quels étaient les acteurs qui étaient dans les films de Kubrick et dans la série Amicalement Vôtre, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, parce que c'est un petit peu la même époque. Et d'ailleurs, on voit, t'as vu, le type qui fait, je sais pas si c'est le vrai Lomax. C'est le mec qui fait le commandant du sous-marin dans Moonraker, je crois, ou dans L'espion qui m'aimait.
Oui, non, mais tu vois, moi j'avais repéré dans un épisode d'Amicalement Vôtre qui s'appelle Regrets éternels, tu sais, c'est une série, un
On l'a
épisode
vu,
où
on l'a fait ensemble celui-là.
il y a
Ouais.
un mec qui dégomme toute la famille Sinclair, tu sais,
Ouais.
et il y a le coupable, en fait, qui est un cousin de Brett, c'est en fait un gars qui s'appelle, c'est le gars qui joue le parrain dans Le Sicilien de Cimino, qui joue dans L'Arme fatale 2, il s'appelle
Ah oui,
Joss.
Ackland. Joss
Joss
Ackland, qui est
Ackland, voilà, comme
mort.
ça,
Ouais,
ouais.
bien sûr.
Et donc, lui, je l'avais repéré. Oui, tu vois plein de comédiens britanniques que tu as pu. Alors, peut-être qu'on voit, je ne sais pas, Philip Stone, il n'a jamais joué, tu vois, ça pourrait être le genre, le gars qui
Ben
joue
voilà, c'est ce que je me suis
Gradlin
demandé.
ou des mecs comme
Mais
ça.
Jeff, il y a un truc qui m'a frappé quand même dans la modernité de la série, parce qu'on dit que ça a pris quand même effectivement un coup, etc. Mais quand on est dans les boîtes de nuit et que tu as, que ce soit Roger Moore ou Tony Curtis qui dansent, vraiment, ça a de la valeur. On est dans Austin Powers,
Curtis,
mais
il
on est
danse.
aussi un petit peu dans Barbie. T'as vu, il y a un côté surréaliste, il y a un côté
Ouais.
très moderne, très
Ouais,
branché.
t'as à côté aussi une... Même pour montrer un peu un petit clin d'œil à mon ami Georges, au final, ne nous fâchons pas. C'est quand il danse dans
Ouais.
cette boîte de nuit, qui était
Ouais,
le
c'est
Haku
vrai.
Club à l'époque, qui
Le
a
jerk.
mis ensemble. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est bien les acteurs qui dansent. Est-ce que tu aimes bien, Jean, quand un acteur
Ah,
danse?
j'adore, moi, j'adore.
J'ai noté des
J'adore.
petites trivias sur certains épisodes. Alors, c'est assez... Dans le premier justement s'appelait Prise de contact au départ, ça se transformait en Premier contact.
Ouais.
Et il y a un dialogue qu'on pourrait plus placer aujourd'hui, je l'ai dit à Laurent tout à l'heure, ça l'a fait marrer. Tu as quand même Roger Moore qui dit Avec les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Et dans l'épisode 2 qui s'appelait Les pièces d'or, tu as un plongeur qui veut tirer sur Danny Wilde sur le tarmac d'aéroport. Et ils vont le poursuivre. Et tiens, Roger Moore qui court, et il y a un gars dans un hélicoptère qui fait vraiment de la figuration. Hein. Et Roger Moore vers lui, il fait barrez-vous, il y a votre femme qui accouche de deux jumeaux. Et tu vois le pilote d'hélicoptère qui se barre comme ça. Et le pilote d'hélicoptère, qu'on voit juste de profil, c'est un comédien qui s'appelait Jan-Michael Vincent, qui était le
Ah
héros de la
oui,
série Supercopter.
tout
Et qu'on
pareil.
voit 30 secondes dans le film, justement dans un hélico. Dans l'épisode 3, Curtis, il fait une impro et il imite Groucho Marx, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il rentre dans un salon de coiffure. Il se met une moustache, etc., face au juge Fulton et fait une petite impro parce qu'il était fan de Groucho Marx. Dans La Danseuse, il y a une très belle phrase qui dit, Tony Curtis montre qu'il n'aime pas l'Angleterre, dit, mes relations avec votre pays se limitent au whisky et au bacon. Et il y a une photo d'un acteur français dans l'épisode 4.
bon?
Alain Delon. Il y a un
Ah,
poster dans la chambre d'une fille, un poster de Delon.
ouais.
Et dernière anecdote, il y a, dans l'épisode 9, Curtis fait un petit clin d'œil à son nom de famille. Il sort de la douche, le téléphone sonne. Il fait, non, il n'y a pas Monsieur Schwartz ici. Et Schwartz, c'était
Mais
le nom de Tony
sinon,
Curtis.
dans les comédiens un peu connus qu'on peut voir dans la série, il y a notamment Bernard Lee. Hein. Bernard Lee, je crois que c'est lui qui joue M dans James
M,
Bond.
c'est ça,
Hein.
ouais, tout à fait. C'est
Ça.
ça.
T'as Jan Hendry, qui était le gars qui jouait le petit ami de Catherine Deneuve dans Répulsion. T'as
Il
donc
y a Suzanne
Jacques Lang.
George. Il y a Suzanne
Suzanne
George,
George,
il me
la
semble.
fille. Tu sais, Suzanne George, la fille qui se fait violer dans les chiens de paille de
Ah, c'est
Peckinpah.
ça. Ouais.
T'as quelques acteurs, je te dis qu'on a. Bon, il n'y a pas énormément de. Il y a Denholm Elliott, tu sais, qui fait le secrétaire d'Indiana Jones dans les Indiana Jones. T'as la femme de Jeremy Irons, je commande Sinéad Cusack. Voilà,
Il y
en
a Peter
gros,
Bowles aussi.
Peter Bowles. Bon, Thierry Thomas, on l'a déjà cité, mais voilà,
John
c'est à peu
Collins.
près les principaux. Il y a pas non plus de grandes vedettes, parce que je pense que ça coûtait tellement cher, Tony
Ils ont fait
Curtis.
qu'une saison, hein. Peut-être s'ils en avaient fait d'autres, ça
Ah
aurait
si,
amené du
il y en
monde.
a une qui est, il y en a une, je me souviens, ce qui est assez marrante, c'est la fameuse Money Penny des James Bond, bah, comment Loïs Maxwell, tu vois, qui joue dans un épisode aussi, quoi.
C'est drôle.
On parle de leur voiture?
Bah oui.
Ouais. Ils sont magnifiques, hein, putain.
Tu parles.
L'Aston Martin a été racheté par un avocat récemment,
Ah.
533 000 livres.
Et c'est une
Wow.
Ferrari, l'autre, c'est ça, hein?
L'autre, c'est ouais, une Dino, une Ferrari Dino
Ouais.
d'époque, ils sont allés chercher à Modène, quoi. C'était.
C'est drôle, l'avocat des brocolis. Parce que c'est l'avocat des brocolis,
Il y a que toi pour penser à ça. Hein. Et le stagiaire qui est allé chercher Curtis à l'aéroport, tu dois donner ton adresse, tu sais où tu loges, et pour pas être emmerdé, le
non? Ouais.
stagiaire a donné sa propre adresse à lui et pas celle de Curtis. Et il me dit, pendant des mois, j'ai reçu des courriers de fans et de jeunes étudiantes qui disaient, Tony, je me touche en fumant de l'herbe en pensant à toi.
Oh, putain.
Il dit donc, les acteurs ont de l'influence sur les jeunes, donc faut pas qu'ils fassent n'importe quoi.
C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on connaissait pas bien cette image de Tony Curtis. C'était un mec qui venait des films de Billy Wilder, qui venait d'un ancien cinéma, et tout d'un coup il s'est retrouvé effectivement jeté dans les années érotiques comme 69, le Flower Power et tout. Et c'était quand même un drôle de personnage et qui est tombé malheureusement dans la cocaïne, je crois, violemment, et qui a
Vous
fait des
savez
films de
que
plus en plus douteux.
Tony Curtis joue enfin plus ou moins dans Rosemary's Baby de Polanski. Il fait une voix au téléphone, c'est le fameux comédien qui perd la vue, tu sais, quand
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Cassavetes essaye de convoiter un rôle et on lui a préféré un mec, et après t'as les Castevets qui jettent un sort sur ce pauvre mec qu'on voit jamais. Mais disons qu'à un moment, Rosemary l'appelle au téléphone, le gars, et c'est en fait Tony Curtis, et elle n'était pas prévenue, parce qu'elle
C'est
connaissait
drôle.
très bien Tony Curtis dans la vie, et c'est Polanski qui avait fait exprès pour qu'elle, tout d'un coup, elle ait l'air un peu troublée, comme si elle connaissait la voix du mec, tu vois.
C'est génial.
On le voit
Tu dis.
aussi, Curtis, il y a un petit
Oh.
truc dans Jackie Brown. On le voit à la...
Ah oui?
Roger Tarantino lui fait un petit hommage, on le voit à la télé.
Mais
Parce que
c'est un
Tony
grand
Curtis,
acteur,
il
Philippe.
avait
Quand tu
joué
vois quand
un.
même, quand on voit ce qu'il fait dans L'Étrangleur de Boston, on se rend compte quand même que c'est un très grand acteur. En plus, sans
Sur...
parler
Et
de sa.
surtout dans Sweet Smell of Success avec Lancaster,
Ouais,
où il est
ouais.
incroyable, Curtis, il est magnifique.
Extraordinaire. Ouais.
Ouais.
Il a fait des tas de nanars après, enfin vraiment dans les années 80. Enfin, je me souviens de trucs pas possibles que j'étais allé voir des fois, mais c'était.
Ah ben je te dis, avec le film avec Jean Lefebvre et Jugnot, c'était quelque chose, hein.
Moi, j'avais vu un truc qui s'appelait.
Casanova.
Ouais, et puis comment le Casanova & Co. avec Marissa Berenson, c'était où tu vois carrément les figurants avec des montres à bracelets au
Ça, ouais,
début.
très
Tu
simple
vois,
pour
voilà.
Casanova, ouais. Non, sur un des grands films, c'était le dernier Nabab. Il joue le rôle d'un acteur qui s'appelait Rodriguez
Ouais.
dans le film de Kazan, ouais. Et on parlait du tournage sur la Côte d'Azur. En fait, ils avaient tourné tous les plans, parce que les scénarios étaient écrits, tous les plans de tous les épisodes, et puis après, ils s'étaient barrés au studio Pinewood.
Ah
Bravo.
ouais,
Ah.
bravo.
Et j'apprends,
Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Amicalement Vôtre le dise ou qu'il se taise à tout jamais.
oui, dernière petite anecdote.
Avec
La
plaisir.
série était tournée en 35 mm
Waouh.
et le premier réal s'appelait Basil Dayden. Et il
Ouais,
a réalisé
bah ouais.
trois épisodes. Donc, il avait déjà fait un film avec Roger Moore qui s'appelait La seconde mort d'Harold Pelham.
Mais qui est pas mal.
Il a fait donc le premier épisode, donc Premier
Moi, je l'ai
Contact.
vu il n'y a pas longtemps.
La
C'est moi qui l'avais
danseuse.
conseillé. C'est toi qui me l'avais conseillé, ouais, tout à fait.
Ouais,
Je l'ai
ouais.
trouvé. Je l'ai trouvé. Là, je dirais pas.
Intéressant, hein?
Je l'ai trouvé.
Mais alors,
Et
Jeff, on se
ouais.
demandait dans une émission précédente, parce que bon, tu as des acteurs et des stars, comme tu le sais mieux que personne, et on se demandait si Roger Moore était un bon acteur ou s'il avait une palette un petit peu plus large qu'on ne lui prête. Effectivement, c'est difficile de le dire. Il y a l'homme qui se hantait lui-même, où il est pas mal, mais aussi j'ai trouvé un truc où il est vraiment bien. C'est dans Les Oies Sauvages. Au
Oui, il est
début, il
bien
va,
là.
y a une fille qui est sous drogue, tu sais. Il est super furieux parce qu'il y a quelqu'un qu'on a tué sous héroïne, un peu genre French Connection 2, tu vois. Et là, tu vois une facette très violente de sa personnalité tout d'un coup.
Oh.
Ouais, tu vois un Roger Moore que tu n'as
Et
pas vu avant, quoi.
contrairement à Sean Connery, il n'a pas fait la fin de carrière qu'a fait Sean Connery après James Bond, tu
Non.
vois.
Ouais.
C'est un peu dommage, je sais pourquoi. Donc pour terminer avec cette anecdote, donc ce réal, Basil Dardenne, avait fait donc trois le premier épisode, il avait fait la danseuse et le coureur de dot. Et il est mort à 60 ans pendant le tournage du film, pendant le tournage de la série en mars
Ah bon?
71. Ouais, Basil Dardenne, il se tue accidentellement en voiture. Et l'histoire ne dit pas si on a retrouvé une bande dans sa voiture, la fameuse bande à Basile. Voilà, pour
Wow.
cette anecdote.
Vous savez que
Oh, ça vient de loin, putain.
le fils de Basil Dearden, c'est un mec qui s'appelle James Dearden, et c'est lui qui a écrit le scénario de Fatal Attraction, la liaison fatale
Wow.
d'Adrian Lyne, et qui a fait quelques films d'ailleurs, pas très réussis, mais c'est un type qui est donc qui a eu son heure de gloire aussi. Mais
Tu sais,
Basil
moi
Dearden,
j'avais tourné un
c'était un
truc
bon
avec
réalisateur.
Moore.
Moi, j'avais vu des vieux films d'horreur des années 60, enfin des trucs, un truc qui s'appelait, je sais plus, un truc dans le métro, je me souviens, de Londres. C'était pas mal, c'est pas mal du tout. C'est des mecs qui avaient quand même un peu de style, tu vois. C'était pas juste des yes men.
Philippe?
Philippe, tu disais que tu as tourné quelque chose
Oui,
avec
j'avais
Roger Moore?
tourné moi 2 semaines avec Roger Moore à Monaco.
Incroyable. Bah oui,
C'était
ouais.
en fait les scènes, uniquement celles de Roger Moore, parce qu'il pouvait tourner que à Monaco. C'est pour des histoires d'impôts. Donc
Il a fait,
c'était
en
une
fait, il a
espèce
fait,
de.
je t'explique, Jeff, rapidement, il a fait un snuff movies avec Roger Moore. C'était un truc genre Hostel où il torturait un mec.
J'ai été témoin de la rencontre entre Jean-Paul Belmondo et Roger Moore.
Waouh!
On arrive à la Colombe d'Or et Jean-Paul arrive. Roger Moore était assis, se lève pour saluer Jean-Paul.
Ah
Je
ouais,
trouve
c'est
ça
cool.
très élégant de sa
C'est
part, parce qu'il
beau.
voyait que Jean-Paul était handicapé. Oui, Philippe, on t'a pas laissé
Philippe,
raconter
pardon,
l'anecdote
Philippe.
quand même.
À
Tu as
toi. Non,
collaboré
non,
quand même avec Roger Moore.
c'est pas une
Nous,
anecdote, en
on est
fait.
des
C'est
nains à
juste
côté.
que je me demande, parce qu'après, il a vécu tout le reste de sa vie pratiquement à Monaco et sur la Côte d'Azur, Moore. Donc je me demande s'il si n'avait pas découvert les endroits pendant le tournage de
Ah
Amical
oui, c'est
Monroe.
possible, oui.
Il n'en est pas reparti, tu vois.
Moi, je l'ai vu à Monaco une fois de loin, mais je l'ai jamais rencontré au point de lui parler et tout ça. Mais à Monaco, tu pouvais le voir. Moi, j'allais souvent à Monaco à une époque et je le voyais de temps en temps. Bon, il était toujours vers l'hôtel de Paris, là-bas. Je sais pas, il devait peut-être habiter par là, mais c'était quelqu'un que tu voyais régulièrement dans les rues de Monaco. Hein.
Ouais. Et je pense qu'il a découvert l'endroit grâce à la série, c'est
C'est
pratiquement sûr.
possible parce que le premier épisode est tourné
Grâce aux impôts aussi, non?
à l'hôtel de Paris, quoi. Grâce aux impôts.
Probablement.
Non, il était très souvent aussi en Suisse, hein, quoi. C'est-à-dire, c'était Crans-Montana, je crois. Il avait une maison à Crans-Montana, la station de ski, quoi.
Ouais. Bien, merci mes TV Buddies pour ce voyage groovy dans les séries télé qui ont bercé notre enfance et l'âge adulte de Philippe. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast Petit Écran. En attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
Non, Laurent Vachaud, bonjour chez vous.
Jeff Domenech, podcast. Jeff Domenech, podcastement votre.
Ouais.
Philippe Sept Bond. My name is Bond. Sept Bond. Ouh.
Et maintenant, dans les mots immortels de mon philosophe de chevet, 50 Cent, I don't know what you heard about me, but a bitch can get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can see that I'm a motherfucking PIMP.
Magnifique.
Eh ben.
Parler de Michael Cimino, il aurait fêté ses 85 ans aujourd'hui.
Ah waouh, merci. Ouais.
Ah ouais, je suis très date moi. C'est aussi en fait l'anniversaire de la mort de Richie Valens et Buddy Holly. Ah
ouais. Mort dans l'avion qui s'est écrasé, ouais. Incroyable
et,
histoire. Ouais.
Et de Cazavettes et Ben Gazzara qui sont morts le même jour tous les deux.
Un 3 février. C'est vrai. Cimino, on m'a raconté quand même que c'était assez sordide. C'est-à-dire, il paraît qu'il est mort et qu'il est resté presque 3 jours dans son lit sans que personne vienne le voir pour voir ce qui se passait. Quoi.
Oh putain, ouais. Ça craint.
C'est pas de quoi, on ne sait pas de quoi il est mort, ça a l'air d'être le cœur.
Il paraît qu'il était coincé devant les portes du paradis, c'était insupportable.